Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, ma.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Et oui, il est 6h, 6h pile avant minuit. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous écouter sur Syllab. Les trésoreries sont faibles, les conditions météorologiques mauvaises et les annonces budgétaires n'ont pas encore perfusé. Ces mots, ce sont ceux de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Merci, Captain Constat, pourraient lui répondre les agriculteurs et agricultrices de France, des professionnels qui s'impatientent partout dans l'Hexagone. En Bretagne, ils et elles invitent la ministre à préciser ses intentions, alors que plusieurs producteurs et productrices laitiers sont lâchés par Lactalis. En attendant la reprise des débats sur le projet de loi d'orientation agricole, il y a déjà une petite chose que nous pouvons faire en tant que consommateurs et consommatrices, acheter solidaire. Par exemple, la marque C'est qui le patron permet aux producteurs et productrices d'être davantage rémunérés. Un début, non ? Tout de suite, le flash de Cyriane.
Je pensais que ces mots seraient les derniers de ma vie. Tels sont les mots de Mohamed Schubert, 17 ans, dans une enquête du New York Times publiée cette semaine. Une investigation portant sur l'usage d'Israël de détenus civils gazaouis comme bouclier humain. L'adolescent y raconte avoir été arraché à sa famille au sud de Gaza et forcé par les soldats de Tsahal à marcher menotté dans les ruines de sa ville à la recherche d'explosifs. De tels agissements auraient été mis en œuvre par au moins 11 escadrons dans 5 villes de Gaza. Samedi matin aura lieu une action BDS, boycott, désinvestissement et sanctions au carrefour de Cesson-Sévigné. L'objectif, dénoncer les investissements de la chaîne dans les supermarchés des colonies en Cisjordanie et le soutien apporté aux soldats de l'armée israélienne. Le rendez-vous est donné à 10h30 sur le parking de Glaz Arena. Un rassemblement aura ensuite lieu à 15h, place de la République, en solidarité avec le Liban et la Palestine. Les cheminots et cheminotes n'ont pas à subir cette injure, a déclaré Thierry Nier, secrétaire général de la CGT Cheminot, en réaction à la future campagne de com' dans les guerres françaises pour le prochain livre de Jordan Bardella. Une autobiographie éditée par Fayard, récente acquisition du milliardaire Vincent Bolloré. Au total, 13 gares parisiennes sont concernées, 54 en banlieue de la capitale et 47 dans le reste de la France. Le syndicat Sudrail appelle à refuser cette campagne d'affichage, dénonçant l'absence de réaction de l'ensemble du groupe SNCF qui accepte, je cite, de participer à la promotion du président d'un parti reconnu et condamné pour des propos racistes.
Depuis le temps qu'on y est sur cette planète, on pensait avoir tout découvert, Cyriane, mais en fait, c'est pas du tout le cas.
Eh non, pas du tout. En effet, Héloïse, un nouvel écosystème a été découvert par une équipe d'exploration marine dans le Pacifique. Vers marins de 40 cm, escargots, mollusques, bactéries ou encore larves peuplent ce biotope situé sous la croûte océanique. Pour atteindre cet écosystème fragile aux allures de montagnes lunaires sous-marines, les chercheurs et chercheuses ont dû plonger dans une obscurité totale et sans oxygène. L'équipe a toutefois alerté sur les convoitises suscitées par ce genre de milieu. En cause, ses nombreuses ressources minières, cobalt, nickel, manganèse, ces métaux très recherchés présents dans nos batteries, pourraient, selon l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, mettre en danger les 1 à 10 millions d'espèces sous-marines vivantes encore inconnues.
Et on fait des découvertes jusque dans la Seine apparemment.
Un cétacé de grande taille qui semble être une baleine à bosse a été observée dans la Seine mercredi 16 octobre, a indiqué la préfecture de la Seine-Maritime dans un communiqué. Un dispositif de surveillance a été mis en place pour veiller sur l'animal. La préfecture demande tout de même aux éventuelles personnes qui croiseraient le chemin du cétacé de ne pas tenter de l'approcher. L'association Sea Shepherd est sur le coup et compte mobiliser l'un de ses bateaux pour la sauver.
Cétacé, il y en a marre.
Merci Héloïse. Et en ce plein mois d'octobre rose, Eva s'est rendue lundi à l'entreprise Ovalt à Béton pour parler cheveux et tondeuses.
Comme chaque lundi matin, ici au groupe Ovalt, on s'active. Dossiers, papier, café et ciseaux sont au rendez-vous. Enfin, ciseaux et tondeuses pour cheveux. Aujourd'hui, se tient une collecte de cheveux dans le hall de l'entreprise. Amandine Guichard, directrice de la communication et de la RSE, nous explique.
Donc pendant cette journée, on collecte des cheveux, soit de moins de 10 cm, donc auquel cas ils vont partir à Capillium, une société qui fait des boudins filtrants d'eau de mer avec. Et s'ils font plus de 10 cm, qu'on les coupe aujourd'hui ou qu'on les ait collectés chez des coiffeurs qui nous les ont gentiment donnés, eh bien ces mèches longues, elles partent pour une association qui s'appelle Fake Hair Don't Care, qui fait des perruques pour les femmes atteintes de cancer. Et donc c'est pour ça qu'on fait ça dans le cadre d'Octobre Rose.
Mais comment ce projet est-il arrivé jusqu'à vous ?
Le collectif donc, qui était au départ, c'est Olga, et puis l'année d'après, ça s'est étoffé avec notamment SIPA West France. Et bien en fait, c'est eux qui sont venus en discuter quand on se croise dans des réseaux. Ils nous ont dit, voilà, c'est une opération qu'on a menée et on aimerait bien l'étendre à d'autres entreprises. Et nous, c'est la deuxième année qu'on participe à l'opération.
La gestionnaire de paie du groupe Ovalt et participante à la collecte, Alison, nous partage son point de vue.
Ouais, c'était l'occasion, vu que c'était sur le temps de travail, pas besoin de bouger ou quoi que ce soit, donc tant qu'à faire, de faire une bonne action derrière. Et puis c'est important pour les femmes aussi qu'on en a besoin.
En plus des participants, Elodie, coiffeuse bénévole du salon Asia, près de la gare à Béton, nous raconte comment elle est arrivée ici.
On est venu me chercher directement et je me suis portée bénévole, bien sûr, pour cette bonne action.
Je crois que c'est unanime, Amandine, comme Elodie nous le dit. Tous les participants ont l'air satisfaits.
Ça ramène déjà du monde qui sont contents de participer à l'opération de cette manière-là. C'est plutôt une façon sympa de participer à une opération d'Octobre Rose, de venir se faire couper les cheveux sur son temps de travail. C'est plutôt chouette.
Bon, j'ai coupé 24 cm là, donc ça fait un coup de frais là.
Merci aux ciseaux et aux tondeuses qui, rappelons-le, sont là pour contribuer aux bonnes actions d'Octobre Rose.
Vous voulez ?
C'est pour le son
d'ambiance. Ah, c'est pour le son d'ambiance. Exact. Le bruit de la tondeuse. Allez.
Et Octobre Rose, c'est maintenant. Donc si vous aussi, vous voulez participer aux bonnes actions comme celle-ci, n'hésitez pas à vous renseigner. 24 300, c'est le nombre de familles fiscales au plus haut revenu qui devraient être mises à contribution par l'État. À l'origine, la mesure ne devait prendre effet que 3 années seulement. Mais hier soir, en commission des finances, une majorité s'est formée pour supprimer cette limite temporelle. Une mesure portée par Jean-Paul Mattei du Modem et Daniel Simonet, député à gauche. Pour elle, le gouvernement prévoit une contribution différentielle sur les hauts revenus temporaires quand la contribution des classes populaires, elle, est permanente, qu'il s'agisse de la taxe sur l'électricité ou de la dégradation des services publics. Et quant à toi, Julien, t'es allé au boulot, un dimanche pourtant.
Eh bien oui, dimanche soir dernier, plutôt que déprimé sur mon canapé en caressant mon chat, j'ai décidé d'aller au boulot. Et là vous me dites, quoi au boulot un dimanche soir ? Mais t'es fou ! Mais non, je ne suis pas allé travailler, je suis allé au ciné voir l'avant-première du film documentaire Au boulot, réalisé par François Ruffin et Gilles Perret. Un nouvel opus de la gauche qu'on aime pour remettre la lutte des classes au centre du jeu et répondre à la question de Ruffin, peut-on réinsérer les riches ? Ok, et qu'est-ce qu'ils nous ont concocté ces deux-là ? Eh bien, accrochez-vous, car le fil rouge est autant surprenant que dantesque. La narration du film est portée par le parcours de la sulfureuse avocate Sarah Salman en immersion dans le travail de gens ordinaires. Sarah Salman, pour rappel, à qui l'on doit ses propos. La France est un pays d'assistés et de feignasses. Elle participe aux tâches quotidiennes de ces travailleuses et travailleurs des métiers dits de la première et de la seconde ligne. On la voit alors dans les métiers du soin à domicile, de la réinsertion, de l'hôtellerie, de l'agroalimentaire, durant une petite semaine. On pourrait croire à une farce, mais non, ce scénario carnavalesque met bien en scène la haute bourgeoisie parisienne parmi les oubliés de la société. Si ses comportements et ses remarques nous laissent pantois, c'est l'inverse lorsque le micro laisse ses collègues d'une semaine prendre la parole. C'est ce genre de film nécessaire pour mettre la lumière sur les gens dits ordinaires, abîmés et parfois mis à la marge. Une lumière pour montrer que ces gens ne sont pas rien, contrairement aux propos de Macron. Mais attention, on ne donne pas crédit à Sarah Salman. Même si elle montre quelques émotions lors de moments durs, elle n'aime pas vraiment les gens d'en bas. Pour elle, ils ne se battent pas. Sur ce point, vous me direz, on ne s'attendait pas à autre chose. Et c'est aussi ça qui rend tristement drôle certaines séquences. Sinon, ce film nous donne du Ruffin pour du Ruffin. Et ça, pour le coup, on en prend. Toujours et encore la valeur d'un engagement qui dure depuis 25 ans. Mettre au cœur de toutes les convergences de lutte la question du travail. Le travail vecteur de lien et d'émancipation sociale, comme un accomplissement de soi, une reconnaissance, le travail vecteur d'inclusion. Un combat quotidien qui lui vaut d'ailleurs des propos fallacieux, même de sa famille politique. Alors, pour toujours plus de soutien à la lutte des classes et soutenir Perret et Ruffin, c'est rendez-vous le 6 novembre pour la sortie officielle. Salut tout le monde et au boulot !
Merci Julien. Hier soir, quant à elle, Janice s'est rendue au café littéraire des Champs Libres pour se laisser emporter par les coups de cœur des invités à cette soirée au comptoir des lectures. Pour la première fois, cette rentrée littéraire était en lien avec Dangereuse Lectrice, le festival littéraire féministe rennais, qui se tiendra à l'Antipode ce week-end, samedi 19 et dimanche 20 octobre.
Bonsoir à toutes et tous, bienvenue à ce comptoir des lectures.
Il pleut des cordes dehors. Et dans cette ambiance chaleureuse que nous offrent les Champs Libres,
j'assiste à la rentrée littéraire de Julie, programmatrice pour Dangereuses Lectrices, Solveig Touzé, libraire à la Nuit des Temps, et Isabelle Appéré, bibliothécaire au Champ Libre. On nous a distribué le programme. Au total, 18 livres sont présentés. J'annote d'un petit cœur les romans dont l'histoire me touche particulièrement.
C'est un roman qui parle énormément des questions de filiation, des questions de virilité, de masculinité et de comment se reconnaître ou pas dans les modèles masculins.
Parmi les romans sélectionnés par Solveig, plusieurs concernent les masculinités. Je l'interroge à ce sujet.
Alors, en fait, dans les coups de cœur que j'ai eus, ces questions de la masculinité, elles se sont un peu imposées presque par hasard. C'est-à-dire que j'ai choisi des ouvrages sans forcément pressentir que ces sujets-là seraient abordés. Et en les lisant, je me suis rendu compte qu'il y avait cette espèce de fil conducteur comme ça qui irriguait pas mal des lectures et qui était au-delà de ça des livres qui étaient extrêmement chouettes et pour lesquels j'avais des coups de cœur. Donc, j'ai souhaité aussi en parler parce que c'est un thème qui, de plus en plus, commence à être abordé par des auteurs. Il y avait pas mal d'autrices qui avaient abordé le sujet, mais de plus en plus des auteurs en parlent, et je trouve ça important aussi d'amener des regards neufs sur ces thématiques-là. Ce sont des thématiques qui ont été beaucoup abordées en sciences humaines et notamment par des femmes, et de voir que la littérature s'en empare et que les hommes s'en emparent aussi dans leurs romans, ça me semble important pour amener une multiplicité des regards aussi sur ces questions.
Elle est également membre du festival Dangereuses Lectrices avec Julie. Elle m'explique le but du festival.
Dangereuses Lectrices, l'idée, c'est vraiment de faire la part belle aux autrices, aux personnes trans non-binaires et de présenter aussi une vision de la littérature qui puisse se démarquer de ce que la production éditoriale a à offrir, c'est-à-dire une majorité d'hommes cis, en fait. Et donc de pouvoir dire qu'il y a aussi autre chose.
On espère que ça vous a donné des idées de lecture. Un grand merci à nos trois intervenantes au Festival Dangereuses Lectrices.
Et si la littérature féministe vous intéresse, on vous invite fortement à vous rendre ce week-end à l'Antipode au Festival Dangereuses Lectrices, dont le thème cette année est les luttes. Et d'ailleurs, en parlant de lutte, samedi se tiendra aussi une manif féministe et antifasciste Place de la République. Rendez-vous 14h. Et après un samedi aussi militant, un dimanche dansant, au stade Robert Poirier vous attend. Au programme, le grand battle international de breakdance du Rainstorming Festival, une édition all-star. Puisque seront réunis la totalité des gagnants et gagnantes des éditions précédentes. Au platine, la DJ McLarnac et DJ Martin. Et au jury, la championne de France de break, Shit Dara, Pascal Blay et le simplement Dina Desjordanes.
Merci Cyriane pour ce journal. On a un invité ce soir.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Oudi marron, barbe à la cool. Pas hipster, mais presque. Ce soir, nous recevons Clément Pasco, metteur en scène de la compagnie Au Point du Soir, auteur du seul en scène Serena. Bonsoir.
Bonsoir.
Peut-être que pour commencer, vous pouvez nous expliquer, Serena, c'est quoi ce spectacle ?
Oui, c'est vrai. Bah, je vais essayer de le résumer en une phrase un peu efficace. Serena, c'est l'histoire d'un jeune adolescent qui s'appelle Clément, qui est probablement moi, jeune, et qui raconte donc ce jeune adolescent vivant à la campagne, découvrant son homosexualité et passionné et amoureux de la joueuse de tennis, Serena Williams.
Donc, vous dites que c'est presque vous, Clément, mais quelle est la part de réel et de fiction dans la pièce Serena ?
Ah oui, mais je ne sais pas s'il faut que je dévoile ça, parce qu'après le 22 octobre... non, bon. Après, comment ça s'est passé, le projet Serena ? C'est qu'en fait, c'est... Donc voilà, j'ai demandé à une autrice, Marion Solange Malenfant, d'écrire ce personnage donc, d'adolescent, Clément, et à travers ce personnage, de raconter ma passion pour cette joueuse de tennis depuis l'âge de 12 ans que j'ai. Donc la première fois que je l'ai vue à la télé, je le dis, c'était le 4 juin 2002. Et elle est autrice, elle a aussi sa liberté, donc il y a forcément une part qu'elle a fictionnée, il y a aussi peut-être une protection aussi que j'ai mis sur certains événements que j'ai pu avoir dans ma vie, donc forcément qu'il y a de la fiction, il y a de la réalité, il y a quand même beaucoup de vrai, après il y a un peu de romance aussi, il faut bien faire du théâtre.
Donc vous faites partie de la compagnie Au Point du Soir et vous êtes plutôt habitué à un travail collectif. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'une telle représentation et est-ce que c'est votre premier seul en scène ?
Alors, Je vais revenir sur le mot collectif. Je ne dirais pas, pour être tout à fait honnête, dans cette émission de radio, on va pas dire, j'ai pas une compagnie, on va dire collectif, vraiment avec un collectif d'acteurs ou un collectif technique. On va dire que j'ai monté cette compagnie en 2017. Serena est mon quatrième spectacle. Alors c'est vrai qu'avant, précédemment, c'était des spectacles où c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'acteurs sur scène, une grosse équipe technique. C'est vrai que là, je suis allé à l'exercice du solo et en plus d'autant plus dont je joue le rôle principal, alors que dans mes autres précédentes pièces, je ne jouais pas dedans. Donc c'est vrai que là, c'est un pas de côté, on va dire. Après, c'était aussi un moment peut-être de ma carrière artistique, entre guillemets, où je sortais des quatre premiers spectacles et j'avais besoin aussi d'entrer dans un nouveau cycle, peut-être aussi une nouvelle façon de raconter le théâtre, aussi emprunt de nouveaux récits. Et je pense aussi avec le Covid, qui m'a aussi remis, comment dire, qui aussi m'a posé beaucoup de questions sur quel est le sens du théâtre, pourquoi on fait du théâtre, à qui on s'adresse. Et du coup, Serena, je voulais aussi raconter un spectacle qui s'adresse aux adolescentes, aux adolescents, et je voulais aussi le porter. J'avais peut-être aussi besoin, moi, de raconter mon adolescence pour aussi pouvoir mieux raconter la leur.
D'accord, donc vous nous avez dit que Serena Williams était un peu votre idole quand vous étiez jeune, et même dans plusieurs pièces, vous l'avez comparée à une figure mythique comme Penthésilée ou Phèdre. Pensez-vous qu'une telle comparaison puisse s'appliquer à d'autres sportives? Et d'ailleurs, pourquoi cette comparaison?
Après, je vois que vous avez tiré cette citation. voilà. Bon, après, des fois, dans les magazines, quand on nous interviewe, on dit aussi beaucoup de bêtises. Non, mais je ne pense pas que c'est une bêtise. Non. En fait, c'est plus une volonté de compagnie. Ça veut dire que, en fait, à la base, moi, j'ai monté mes premières pièces. C'était sur Penthésilée, la reine des Amazones, premier personnage non-genré de la mythologie. Phèdre, voilà, où j'ai essayé un peu de contrer cette représentation qu'on a de Phèdre, qui est forcément cette femme aigrie de 50 ans. Au contraire, moi, je pense que c'est plutôt une jeune fille qui a été maltraitée. Et donc, dans mon travail, je pars toujours de la mythologie, parce que quand j'étais enfant, à l'âge de 5 ans, j'ai beaucoup aimé la mythologie. J'étais assez solitaire et donc j'étais aussi assez rêveur. Et puis, j'aimais bien partir dans des mondes assez lointains. Et donc, voilà. Et puis, je sens aussi en tant qu'homosexuel, moi j'ai vécu à la campagne, tout ça, je me suis aussi beaucoup senti protégé par les femmes, voilà, je veux dire les choses comme ça, et du coup j'ai toujours peut-être dans mes pièces voulu aussi leur rendre hommage, voilà, ou en tout cas les regarder aussi à un autre endroit qu'on veut toujours les regarder au théâtre, voilà. Et Serena, c'est une passion que j'avais depuis l'âge de 12-13 ans, mais c'est vrai que dans le milieu culturel, j'osais pas la dire. Parce que aussi, il y a des représentations dans le sport, mais il y a aussi des représentations dans le milieu culturel. Et dans le milieu culturel, on peut aussi beaucoup juger. Voilà, ceux qui sont différents de nous, qui n'ont pas les mêmes géographies, les mêmes goûts. Voilà. Et donc, je le cachais un peu. Et en fait, grâce à un ami, j'ai pu me libérer et donner écrire cette passion pour Serena et la mettre en scène. Et pourquoi je la compare à Penthésilée ou Phèdre, c'est que elle est une mythologie contemporaine par sa carrière qui est exceptionnelle, bien sûr, de 98 à 2022, mais ça, on peut en parler pendant toute l'interview et puis vous pourrez aller voir le spectacle. Mais pourquoi j'ai parlé de ça aussi, c'est que précisément, moi, je crois un théâtre aussi large des mythologies. Moi, je pense qu'on peut parler à la fois de fêtes sur un plateau de théâtre comme on peut parler de Serena Williams. Et ça, je le crois profondément. Moi, mon travail artistique, il est empreint de plein de références très populaires comme mon référence très intellectuelle. C'est ça que j'aime bien. C'est pour ça aussi que j'adore des réalisateurs comme Xavier Dolan. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Et je pense aussi que quand j'ai aimé Serena Williams à l'âge de 12 ans, je pense qu'à l'âge de 16 ans, si j'ai autant aimé Penthésilée et Phèdre ou Médée, c'était aussi grâce à Serena, parce que Serena m'a fait aimer les femmes fortes. Je dirais pas puissantes, parce que autrement ça fait penser à une certaine émission qui a été faite avec des femmes qui ont beaucoup d'argent, donc c'est un peu gênant.
Je crois que tu voulais intervenir, Cyriane.
Vous parlez de Xavier Dolan, et quand vous parlez, la manière dont vous parlez des femmes et comment elles vous ont un peu protégées, accueillies, je trouve que ça se ressent vraiment que Xavier Dolan, c'est une de vos inspirations, puisque dans tous ses films, globalement, c'est l'histoire de personnes homosexuelles, d'hommes homosexuels qui sont protégés, entourés de femmes, et toute son œuvre, un peu, c'est vraiment genre un hommage à toutes ces femmes, donc voilà.
Mais oui, et en plus, quand j'ai rencontré le travail de Xavier Dolan à l'âge de 18 ans, son premier film, donc J'ai tué ma mère, en plus, il a exactement le même âge que moi. Donc oui, bien sûr, la référence, elle est complètement directe. Et son cinéma m'a énormément plu, parce que je me suis tout de suite... j'ai tout de suite compris, je veux dire de façon très prétentieuse, mais en tout cas, ce qu'il souhaitait faire comme message. Et en plus, ce qui est super bien d'avoir comme modèle Xavier Dolan, c'est comme je fais du théâtre, je ne peux pas me comparer formellement, donc ça, c'est encore mieux.
Avec toutes ces casquettes.
Voilà.
Justement, vous parlez d'un modèle féminin alors que vous êtes un homme. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette thématique particulière ?
Mais ça, je peux pas. En fait, je peux pas forcément vous répondre parce que j'ai déjà, je pense, répondu. Alors, j'essaye de la comprendre en me disant que c'est parce que je me suis toujours senti beaucoup plus protégé par les femmes que, ou en tout cas par, que par les hommes. Que je sais pas pourquoi je suis plus attiré par raconter la des modèles féminins. Moi, en fait, j'ai en fait. Alors j'ai peut-être eu la chance d'avoir aussi une mère assez féministe. Moi, ma mère, elle a toujours conduit. Je sais pas, c'est, je vous donne un exemple. Elle n'aimerait pas du tout que je sois en train de dire ça la soir, mais bon, bref, elle n'a pas écouté l'émission. Mais en clair, c'est elle le soir qui demande à mon père de ramener la voiture après des soirées parce que c'est elle qui voulait boire, donc c'est mon père qui ne buvait pas. Donc moi, j'ai toujours connu une mère assez indépendante. Elle a fait de la politique. Elle a été élue municipale dans une petite commune du vignoble nantais, où, voilà, très militante sur l'écologie. Donc voilà, c'est peut-être aussi ça. Et voilà, donc je ne peux pas répondre pourquoi. En tout cas, ce que je trouve qui est intéressant dans le spectacle de Serena, et ça, moi, en tout cas, je suis content parce que je ne me suis pas forcément rendu compte, c'est à force de le jouer. Je trouve ça bien aussi que ce soit un homme qui prenne pour modèle une femme et que ce soit pas. C'est pas. L'inverse, c'est pas forcément. Genre, l'inverse est beaucoup plus évident, mais ce cas-là. Voilà. Mais je suis content que ce spectacle, voilà, et.
D'accord. Et bah justement, est-ce que vous comptez peut-être l'adapter à la radio ou est-ce que vous avez déjà pensé à faire du théâtre radiophonique ?
Alors, j'ai fait des podcasts radiophoniques durant le confinement. On m'avait fait une mission avec le TU Nantes où j'étais artiste associé, où j'ai fait deux podcasts, où j'ai défendu deux écritures contemporaines. Lina Prosay, une autrice sicilienne, qui était une réécriture du mythe de Médée, Médéas, et puis Marion Solange Malenfant, qui a participé et qui a écrit avec moi Serena et qui, je lui avais commandé une pièce spécialement sur la relation frère-sœur. Mais je mène un atelier podcast avec l'aide des étudiants de Rennes 2. Donc voilà, sur des femmes inspirantes. Donc le principe, c'est vraiment, ils écrivent leur inspirante. Et comme dans Serena, c'est-à-dire qu'ils vont écrire des petits podcasts, des petites capsules de 1 minute et demie, 2 minutes, où ils vont prendre leur inspirante, voilà. Et donc j'ai mené cet atelier, donc là je suis en train de le mener d'ailleurs, après l'émission je vais les rejoindre pour l'enregistrement et vous pourrez écouter toutes ces femmes inspirantes, je crois, lundi matin.
Absolument, le lundi à 9h dans le créneau du service culturel de l'université qui s'appelle Battement. Et est-ce qu'on peut savoir concrètement quelles sont les femmes inspirantes choisies par les participants, participantes?
Après je vais pas toutes vous les dévoiler parce que la surprise c'est aller un ou deux exemples.
Ouais.
Y en a des, déjà ils m'en ont fait découvrir et ça je suis quand même très heureux parce que je mène cet atelier, en fait ces podcasts autour des inspirantes, c'est une bibliothèque numérique que je mène maintenant depuis 6 mois. Je l'ai déjà fait au Mans, je l'ai fait aussi à Trélières, une commune à côté de Nantes, et je le ferai après à Machecoul avec des lycéens, des amateurs, voilà, que je constitue autour du spectacle de Serena. C'est une action culturelle autour du spectacle. Donc là je vais vous en donner trois, par exemple trois très beaux exemples. Il y a Sappho, donc qui est la première poétesse la poétesse, en tout cas une des poétesses qui a été méconnue de l'Antiquité et aussi qui a donné son nom au terme lesbienne parce qu'elle habitait sur l'île de Lesbos et elle était lesbienne. Il y a Ella Mallard qui a été une navigatrice très très connue en 1930 et qui a un peu passé. Voilà. Et puis aussi Rihanna, donc voilà, c'est très large.
Ah oui, effectivement, on couvre toute la.
Toute l'histoire de l'humanité,
toute l'histoire
en fait.
De l'univers.
Mais je dis pas que dans mon travail, j'aurais pas la prétention de dire que je traverse toute l'histoire de l'univers, mais ce que j'aime bien dans les actions culturelles, c'est que j'essaie qu'elles soient le plus proches aussi de mon travail artistique, et finalement, quand je parle de Pantésie et de Serena Williams, bah, là aussi, c'est le cas, et voilà.
Est-ce que peut-être que vous avez été surpris par les choix qui ont été faits, que vous auriez pas qualifié certaines femmes d'inspirantes, et en fait, en y réfléchissant, vous avez été convaincue par les participants, les participantes?
Non, je pourrais pas vous dire que. Alors là, pour le coup, je peux pas vous faire un scoop en disant que je me suis fait. Non, en tout cas, surtout, c'est que j'apprends beaucoup de femmes inspirantes que je ne connaissais pas. Voilà, des femmes aussi venant d'autres pays. Voilà, et ça m'a. J'apprends beaucoup, en fait. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que l'action culturelle, on est souvent dans un rapport aussi très pyramidal avec l'intervenant qui arrive comme étant le sachant. Et là, pour le coup, j'apprends autant qu'eux. Mais des fois, je leur dis pas, je fais semblant de les connaître.
Donc justement, cette action culturelle, elle est menée à la radio. Donc ça fait donc 6 mois que vous la menez, et à observer justement comment ça se passe à la radio, vous trouvez que c'est quoi le rapport à la voix qu'il y a, et comment est-ce que ça peut transmettre quelque chose à un jeune public?
Je trouve que ce qui est agréable en revanche, dans cette action culturelle, c'est que quand on a le désir à la fois de jouer et d'interpréter et d'écrire et de travailler la radio, c'est vrai que c'est un bel exercice, le podcast. Et puis, ça permet aussi aux participants ou aux participantes qui sont un peu plus timides, un peu plus réservées, de se sentir quand même protégées. Parce qu'on écrit, on ne met pas notre corps complètement en jeu. Voilà. Ça peut aussi se faire de façon un peu plus rapide qu'une pièce de théâtre qu'on doit apprendre pendant 6 mois avec une représentation bout. Donc, c'est souvent un format qui est assez efficace. Et du coup, c'est assez chouette, ça. Et ça me fait aussi rencontrer un public très, très large.
Donc aussi, on a vu que vous avez dit que le podcast, le fait de parler en général, c'est un moyen de prendre conscience de sa propre voix, son écriture et sa capacité à s'exprimer. Comment est-ce que ça s'est produit pour vous quand vous étiez jeune ?
Après, moi, j'ai découvert vraiment le podcast et la radiophonique vraiment là, il y a 5-6 ans. Ouais. Moi, j'ai vraiment commencé le théâtre de façon très classique, un petit cours de théâtre en campagne, puis après j'étais dans un lycée option théâtre, puis après j'ai fait un conservatoire. J'ai vraiment eu, on va dire, le schéma classique de quelqu'un qui arrive sur scène le 22 octobre. Donc voilà, j'ai vraiment connu un parcours d'acteur de théâtre. Et le podcast, comme je vous dis, c'est depuis le Covid vraiment que je me suis intéressé à ce médium et que je trouve qu'il est vraiment fabuleux parce que ça permet de faire découvrir aussi des écritures, ça permet de faire découvrir des thématiques différentes. Voilà, et je trouve que c'est très agréable aussi d'avoir cet objet le soir, tard, le matin très tôt, aussi des fois dans des endroits très bruyants comme le train ou le métro. C'est vraiment agréable, on a l'impression d'être toujours dans une matière un peu intellectuelle.
Et bah justement, en parlant du théâtre, pour vous, qu'est-ce que ça peut apporter, par exemple, à un adolescent quand on doit se construire et s'affranchir de certains modèles sociaux ?
Le théâtre ?
Oui.
Bah, je pense que le théâtre, de toute façon, pour moi, ça a été une... Dans mon cas hein, personnel, c'était vraiment quelque chose qui m'a libéré. Donc pour moi, c'est puissant. Après, je pense que ce qu'il faut faire attention ces derniers temps, comme je vois que vous êtes très au fait de l'actualité, et ma prochaine pièce racontera l'histoire d'une femme politique, donc moi aussi je m'intéresse beaucoup à l'actualité, écrit par un auteur libanais, donc une double actualité. Bien sûr que le cours de théâtre, et là tout le monde va être d'accord sur ce que ça peut apporter, sur l'aisance, sur la confiance en soi, et que c'est essentiel, et qu'il faut absolument faire des pratiques artistiques quand on est adolescent, surtout quand on vient de milieux sociaux, voilà, un peu exclus. En revanche, je trouve qu'il faut faire attention ces derniers temps. Il y a une petite tendance à quand même vouloir faire du théâtre une efficacité en art oratoire, dans un langage un peu start-up. Et quand j'entends un gouvernement dire qu'il faudrait faire des cours de théâtre dès la 5e, je ne suis pas sûr que c'est dans le bon but. Parce qu'au contraire, ce qui est beau au théâtre, c'est de pouvoir dire et jouer sans aucune efficacité.
Ce sera le mot de la fin. Merci Clément Pascot. Donc on le rappelle, Serena, c'est mardi prochain, le 22, au Tambour, 19h, c'est ça ?
20h, je crois.
20h. On le note. Et puis les capsules sont à écouter dès lundi à 9h sur Syllab, dans le créneau Battement, le créneau du service culturel de l'université. Merci.
Et merci pour votre invitation.
6h avant minuit.
C'est bientôt Halloween, Gwen, et quoi de mieux qu'un petit film d'horreur pour se mettre dans l'ambiance ?
Bonne question, vous n'êtes sûrement pas passé à côté de la polémique du nouveau Terrifier 3 sorti ce 9 octobre. L'histoire est celle de Sina et de son frère qui tentent de retrouver une vie normale après avoir survécu au massacre perpétré par Art le clown une nuit d'Halloween. Mais au moment de Noël, alors qu'ils se croyaient enfin libérés, Art revient pour le pire. Voici un aperçu.
Je l'ai vu aujourd'hui.
Qui ? Comment tu peux être sûr que c'était vraiment lui ?
Je le sens.
Mais c'est qui, lui ? Il a fait peur à mon fils.
Oui. Il me fait peur, à moi aussi.
Hé, le Père Noël donne des cadeaux !
Fini, Julien, courez !
Pourquoi est-ce qu'il reviendrait ? Même s'il était encore en vie, ce qui n'est pas le cas. Tu penses pas qu'il voudrait s'éloigner d'ici le plus possible ?
On sait tous les deux que c'est pas fini.
Ça te fout les chocottes, Héloïse. Bah, hein,
rien que les bruits, j'ai pas l'image, mais rien que les bruits, ça m'a...
ça me manque pas. Mais rassure-toi, tu n'es pas la seule. En France, le troisième volet de Terrifier, réalisé par Damien Léone, est interdit au moins de 18 ans. la commission du ministère de la Culture l'a jugé comme un film violent et gore qui multiplie les scènes d'une violence extrême et sadique, visant à glorifier la violence sous un angle favorable, ce qui pourrait gravement troubler la sensibilité du public. La dernière fois que cette mesure avait été appliquée, c'était il n'y a pas moins de 18 ans, en 2006, pour Saw 3. Toutefois, l'interdiction n'a pas desservi ce film, et bien au contraire. 5 jours après sa sortie, ce sont 245 000 spectateurs qui l'ont visionné, d'après les chiffres d'Allociné. Il faut dire qu'en plus du grand succès des Terrifieurs 1 et 2, des scandales du même genre aux États-Unis et en Angleterre ont augmenté la notoriété du troisième volet. D'après plusieurs témoignages, l'avant-première anglaise a provoqué des malaises et des vomissements. Face à l'insupportable, des spectateurs ont abrégé leurs séances et souffrances. Il y a 6 jours, le Média Brut a publié sur TikTok des réactions du public à la sortie du film.
Comment c'était le film ?
Bah, c'était gore, quoi. Voilà.
C'était super gore, en tout cas. Et franchement, ça va, il était bien, mais en tout cas, c'était vraiment gore.
Franchement, c'était bien gore, hein, tranquille.
C'est horrible.
Bon, apparemment, c'était gore. Mais si ça vous a donné envie, 2 cinémas le diffusent en Ille-et-Vilaine, celui de Bruz et celui de La Mézière.
Et si ça vous fait trop peur, vous pouvez toujours vous rabattre sur l'indétrônable Étrange Noël de Monsieur Jack pour commencer le compte à rebours d'Halloween. C'est dans 15 jours, hein, Gwen, c'est ça ?
Exactement.
Ouh, on a hâte. Ça sonne, non ? J'entends quelque chose sonner, non ?
Un truc qui sonne, non ?
Non, c'est peut-être
pas,
le portable du clown tueur.
Le téléphone.
Allô ? Allô ?
Syllabe, la radio sauvage.
Un message à nous faire passer, un fait marquant près de chez vous, une déclaration d'amour ou un coup de gueule, un retour sur nos reportages peut-être. Laissez-nous un message vocal. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Il sera peut-être diffusé à l'antenne. En attendant, on vous dit à lundi. Merci Eva pour la technique. Je vais pas oublier.
Sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe, la radio sauvage.